Chapitre 3. Des divers partis dont l'Assemblée législative était composée. On ne peut s'empêcher d'éprouver un profond sentiment de douleur lorsqu'on se retrace les époques de la Révolution où une constitution libre aurait pu être établie en France et qu'on voit non seulement cet espoir renversé, mais les événements les plus funestes prendre la place des institutions les plus salutaires. Ce n'est pas un simple souvenir qu'on se retrace, c'est une peine vive qui recommence. L'Assemblée constituante, vers la fin de son règne, se repentit de s'être laissée entraîner par les factions populaires. Elle avait vieilli en 2 années comme Louis XIV en 40 ans. C'était aussi par de justes craintes que la modération avait repris quelque empire sur elle. Mais ses successeurs arrivèrent avec la fièvre révolutionnaire dans un temps où il n'y avait plus rien à réformer ni à détruire. L'édifice social penchait du côté démocratique. Il fallait le relever en augmentant le pouvoir du trône. Toutefois, le premier décret de cette assemblée législative fut pour refuser le titre de majesté au roi et pour lui assigner un fauteuil en tout semblable à celui du président. Les représentants du peuple se donnaient ainsi l'air de croire qu'on n'avait un roi que pour lui faire plaisir à lui-même, et qu'en conséquence on devait retrancher de ce plaisir le plus possible. Le décret du fauteuil fut rapporté, tant il excita de réclamations parmi les hommes sensés. Mais le coup était porté, soit dans l'esprit du roi, soit dans celui du peuple. L'un sentit que sa position n'était pas tenable, l'autre embrassa le désir et l'espoir de la République. 3 parties très distinctes se faisaient remarquer dans l'Assemblée, les constitutionnels, les jacobins et les républicains. Il n'y avait presque pas de nobles et point de prêtres parmi les constitutionnels. La cause des privilégiés était déjà perdue, mais celle du trône se disputait encore, et les propriétaires et les esprits sages formaient un parti conservateur au milieu de la tourmente populaire. Ramon, Mathieu Dumas, Jaucourt, Beugnot, Girardin se distinguaient parmi les constitutionnels. Ils avaient du courage, de la raison, de la persévérance, et l'on ne pouvait les accuser d'aucun préjugé aristocratique. Ainsi la lutte qu'ils soutinrent en faveur de la monarchie fait infiniment d'honneur à leur conduite politique. Le même parti jacobin, qui existait dans l'Assemblée constituante sous le nom de la Montagne, se remontra dans l'Assemblée législative, mais il était encore moins digne d'estime que ses prédécesseurs. Car au moins dans l'Assemblée constituante, l'on avait eu lieu de craindre, pendant quelques moments, que la cause de la liberté ne fût pas la plus forte, et les partisans de l'Ancien Régime, restés députés, pouvaient encore être redoutables. Mais dans l'Assemblée législative, il n'y avait ni danger, ni obstacle, et les factieux étaient obligés de créer des fantômes pour exercer contre eux l'escrime de la parole. Un trio singulier, Merlin de Thionville, Bazire et le ci-devant Capucin Chabot, se signalaient parmi les jacobins. Ils en étaient les chefs, précisément parce qu'étant placés au dernier rang, sous tous les rapports, ils rassuraient entièrement l'envie. C'était le principe de ce parti qui soulevait l'ordre social par ses fondements, de mettre à la tête des attaquants ceux qui ne possédaient rien dans l'édifice que l'on voulait renverser. L'une des premières propositions que le trio démagogue fit à la tribune, ce fut de supprimer l'appellation d'honorable membre, dont on avait coutume de se servir comme en Angleterre. Ils sentirent que ce titre, adressé à qui que ce fût d'entre eux, ne pourrait jamais passer que pour une ironie. Un second parti, d'une toute autre valeur, donnait de la force à ces hommes sans moyens, et se flattait, bien à tort, de pouvoir se servir des jacobins d'abord et de les contenir ensuite. La députation de la Gironde était composée d'une 20aine d'avocats, nés à Bordeaux et dans le Midi. Ces hommes, choisis presque au hasard, se trouvèrent doués des plus grands talents, tant cette France renferme dans son sein d'hommes distingués, mais inconnus, que le gouvernement représentatif met en évidence. Les Girondins voulurent la République et ne parvinrent qu'à renverser la monarchie. ils périrent, peu de temps après, en essayant de sauver la France et son roi. Aussi M. de Lally a-t-il dit avec son éloquence accoutumée que « leur existence et leur mort furent également funestes à la patrie ». À ces députés de la Gironde se joignirent Brissot, écrivain désordonné dans ses principes comme dans son style, et Condorcet, dont les hautes lumières ne sauraient être contestées, mais qui cependant a joué dans la politique un plus grand rôle par ses passions que par ses idées. Il était irréligieux comme les prêtres sont fanatiques, avec de la haine, de la persévérance et l'apparence du calme. Sa mort aussi tint du martyr. On ne peut considérer comme un crime la préférence accordée à la République sur toute autre forme de gouvernement si des forfaits ne sont pas nécessaires pour l'établir. Mais à l'époque où l'Assemblée législative se déclara l'ennemi du reste de royauté qui subsistait encore en France, les sentiments véritablement républicains, c'est-à-dire la générosité envers les faibles, l'horreur des mesures arbitraires, le respect pour la justice, toutes les vertus, enfin, dont les amis de la liberté s'honorent, portaient à s'intéresser à la monarchie constitutionnelle et à son chef. Dans une autre époque, on aurait pu se rallier à la République, si elle avait été possible en France. Mais lorsque Louis XVI vivait encore, lorsque la nation avait reçu ses serments, et qu'en retour, elle lui en avait prêté de parfaitement libre, lorsque l'ascendant politique des privilégiés était entièrement anéanti, quelle assurance dans l'avenir ne fallait-il pas pour risquer, en faveur d'un nom, tout ce qu'on possédait déjà de biens réels? L'ambition du pouvoir se mêlait à l'enthousiasme des principes chez les républicains de 1792, et